Allô, bonjour, voilà. J'appelle pour un coup de gueule. Je suis enseignante en primaire, j'ai l'habitude d'écouter pour m'informer France Inter et là je suis dépitée. Demain jeudi, une grande grève est prévue dans l'éducation nationale. Et qu'est-ce qu'on entend sur France Inter? Une maman qui dit être encore une fois pris en otage. Or, on n'entend à aucun moment les enseignants dire vraiment pourquoi ils font grève. Une enseignante est citée et dit ne peut pas faire grève à cause de son portefeuille, c'est dommage. Un autre enfin dit faire grève par conviction, quand même. Enfin, moi j'ai à dire que je fais grève parce que j'ai pas envie qu'on saccage ni notre école, ni notre mission d'enseignant. Et moi aussi, à part enseignante, je suis parent et je m'organiserai pour faire garder mon enfant de 4 ans pendant que j'irai manifester et dire mon ras-le-bol et mon inquiétude. Alors pourquoi on flippe? Nous, les enseignants, on flippe face à un ministre nommé Darcos qui a fondé avec d'autres hauts fonctionnaires une association créateur d'écoles dans le but de promouvoir les créations d'écoles privées catholiques subventionnées par l'État avec des enseignants qui seront recrutés sur contrat à durée déterminée avec rémunération différenciée. Enfin, c'est leur souhait caché et on imagine sans mal les dérives. On a peur aussi d'un président de la République qui dit que le curé est mieux placé que l'instit pour apprendre la différence entre le bien et le mal. On a peur enfin d'une Emmanuelle Mignon, directrice du cabinet de Monsieur Sarkozy, qui dit « J'ai toujours été conservatrice, j'aime l'ordre, je crois à l'initiative individuelle, à l'effort personnel et en matière économique à la main invisible du marché. Par exemple, je suis pour une privatisation totale de l'éducation nationale. » Donc voilà, ça fait flipper quand même.
Salut Daniel, c'est Emmanuel de Lyon. Bon, excellente émission aujourd'hui mardi, qui ne fait pas du tout froid dans le dos. Par contre, ce qui me fait froid dans le dos, c'est le problème qui vient d'être décelé à la centrale de Creas, dans la Drôme, près de Montélimar, où vous aviez fait un reportage. J'ai entendu qu'ils avaient 3 mois pour se mettre, pour devenir conformes. Donc, ce qui signifie qu'avant, ils ne l'étaient pas. Salut et bon courage à tous. Ciao.
Bonjour à tous les auditeurs de là-bas, si j'y suis, ici le repère des AMG de la Guadeloupe. Ce mercredi 19 novembre aura lieu notre 4e rendez-vous au bistrot Le Petit Extra, rue Alfred Lumière à Jarry à 17h30. Venez nombreux débattre avec nous de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Dis-moi mon Daniel, notre repère organisera bientôt la projection du DVD Chomsky. Tu es cordialement invité. Allez, au revoir.
Salut Daniel, c'est Arwan du 35, enseignant de langue en vadrouille. Voilà, je voulais passer un appel à tous les camarades, collègues qui voudraient nous rejoindre demain à Rennes, 11h, place de la gare pour le début de la manifestation. Défense du service public, défense de l'école, défense des postes d'enseignants spécialisés pour aider les élèves en difficulté et pour combattre cette ignominie qu'on nous fait en ce moment de détruire le service public avec un argument ultra populiste de dire que les profs sont tous des feignants et que personne ne fait rien pour ses élèves en difficulté. Donc voilà, on se lève pas demain pour justement gagner une journée à rien foutre et à faire la grasse mat. On se lève pour défendre la République, le service public et l'école laïque. Voilà, allez, salut Daniel et bon courage à tous.
Eh ben, on va s'associer à cette histoire des manifestations de demain. Dans l'éducation nationale, on va s'y associer tout de suite avec Sylvie. Sylvie, qui c'est Sylvie? Eh ben, c'est une enseignante qui nous a laissé un message il y a quelques semaines pour nous dire sa lutte, pour nous dire ses espoirs, pour nous expliquer ce qu'est cette mobilisation des enseignants depuis déjà assez longtemps. Et notamment les enseignants concernés par les RASED, réseaux d'aide spécialisés aux enfants en difficulté. Vous savez que ces RASED sont menacés. 3000 de ces postes seront supprimés à la rentrée 2009. Et vous avez compris qu'il s'agit d'aide spécialisée aux enfants en difficulté. 15% des enfants scolarisés connaissent des difficultés importante et donc ce réseau a toute son importance. Or, il va être supprimé à la rentrée 2009. Colère, rage, dans un premier temps des enseignants, et puis organisation, et puis lutte, et puis demain. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va retrouver Sylvie, cette enseignante qui avait laissé ce message. Moi, j'avais trouvé qu'elle avait une voix très expressive. Voilà, et c'est Charlotte qui est allée la voir et qui a passé une journée entière avec eux, chez elle, elle nous a accueillis. Et puis son milieu, et puis les soucis de ses enseignants, des gens tout à fait remarquables, en lutte, en rage, mais avec beaucoup, beaucoup de détermination et de raison. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
La raréfaction de l'eau fait 30 000 victimes chaque jour dans le monde. Conséquence, son accès se privatise au profit de multinationales. Je vous embrasse tous. Ciao.
Oui, bonjour. Je suis infirmière et je voulais dire qu'on est devant la faculté de médecine de Cochin. On manifeste pour avoir une reconnaissance de la licence universitaire et la catégorie A, que les médias ne sont pas là, qu'il manque de plus en plus d'infirmières et on voit que les médias ne nous aident pas et on est extrêmement déçus. Voilà. Je m'appelle Laurence. Au revoir.
Amis des betteraves du Gâtinais, bonjour. Les AMG du repère de Tousson, Sud-Seine-et-Marne, près de Milly-la-Forêt, vous invitent à une conférence sur le thème « Télévision et politique » animée par Pierre Rimbert, journaliste au Monde Diplo et à Plan B. L'entrée est libre et cette soirée, organisée en partenariat avec les Amis du Monde Diplomatique, aura lieu le vendredi 21 novembre à 20h au café La Tête des Trains, place de l'Église, à Tousson, près de Milly-la-Forêt. Bienvenue à tous de la part de Pierrot, Polo et Julien. Salut.
Bonjour les AMG. Comme chaque mois et pour la troisième fois consécutive, le Café Repère de Savigny-sur-Orge en Essonne aura lieu chez Tonton, 37 rue de la Liberté, ce mercredi 19 novembre à 20h30 et sera intitulé « Santé publique, on trinque ». La fermeture de nombreux services hospitaliers dans notre département sera le point de départ de notre discussion. Avons-nous les moyens d'agir contre la locomotive du « tout doit être rentable » Et qu'est-ce qu'un hôpital rentable? Au moment où l'État sort de sa poche 360 milliards pour sauver les banques, l'hôpital public, lui, devra-t-il partager ses maigres subsides avec des structures privées? Qui a racheté récemment la plupart des cliniques privées en France? Telles seront les questions abordées ce mercredi 19 novembre à 20h30 au Café Repère chez Tonton, 37 rue de la Liberté, à Savigny-sur-Orge. Alors, santé publique, on trinque?
Tchin-tchin! Durant les 6 mois qui ont précédé l'incendie du centre de rétention de Vincennes, le 22 juin 2008, les retenus ont multiplié les actes de résistance, refusant de manger, d'être comptés, déchirant leurs cartes, brûlant leurs chambres, affrontant la police. 6 mois de lutte collective au cours desquels nous n'avons cessé de leur téléphoner et de recueillir le récit de leur révolte. Voici le 4e de couverture d'un très très bon petit livre qui vient de sortir, qui s'appelle « Feu au centre de rétention » et qui recueille donc les témoignages de retenus au centre de rétention de Vincennes entre janvier et juin 2008. Il coûte 7 euros, il est sorti aux éditions Libertalia et les bénéfices de ce livre iront aux inculpés de l'incendie de Vincennes qui sont actuellement emprisonnés. Voilà, je vous remercie, salut à tous.
On est dans une société très élitiste et c'est que le meilleur gagne et aussi les gens qui sont plus favorisés vont pouvoir s'en sortir parce qu'on rend toujours la possibilité à l'extérieur de recourir à des personnes spécialisées ou autres pour pouvoir être aidées. Mais les personnes les plus défavorisées, bien c'est toujours pareil, on creuse les écarts, elles seront encore plus défavorisées.
La vache qui nage
plonge. L'enseignant, c'est pas celui qui sait. C'est pas que celui qui sait. Et que si on se situe face à l'enfant en difficulté autrement que quelqu'un qui sait, ça désamorce pas mal de choses. Et nous, on part du principe que l'enfant, il sait aussi beaucoup de choses. Il faut savoir l'écouter.
La pieuvre, le poisson qui glisse, l'éléphant qui la vache et les singes qui...
Aujourd'hui, quand il y a une grève, on ne s'en aperçoit plus. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de manifester. Mais on n'est plus des êtres humains si on pense ça. Hein. On se lève le matin, même fatigué, hein, Rémi. Et puis, on y va, on est debout. On est debout, comme tu disais, Yves. Il faut rester debout.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est la base où j'y suis avec Charlotte Perry. Et si... on essayait l'ignorance. Flight number 2, arriving
from Darkos, supprime les razades des 8000 postes de gagner. Mais combien d'enfants sacrifiés ?
Je m'appelle Yves Fradin, je suis rééducateur à Nantes. Non, je travaille en priorité avec des enfants qui sont, on va dire, empêchés d'apprendre. Oui, ils ont des compétences la plupart du temps normales, ordinaires, hein, mais bon, on pourrait dire qu'ils sont empêchés d'apprendre parce qu'ils arrivent à l'école chargés de bien plus que les accessoires scolaires, quoi. Hein, ils trimballent parfois des accidents de famille, quoi, hein, qui sont plus qu'encombrants. Hein. On peut penser au chômage, on peut penser aux séparations dans les familles, on peut penser à des accidents de santé. En tout cas, toujours est-il que... entrer dans la lecture et les apprentissages, c'est quelque chose qui leur est pour l'instant impossible parce qu'ils ont un besoin de parole, ils ont un besoin d'expression. Et mon rôle à moi, c'est de libérer cette expression-là pour leur permettre de devenir des élèves.
École gâchée, lycée bradé, jeunesse sacrifiée.
Moi, je m'appelle Françoise Aoustin, je suis psychologue sur le réseau d'aide de Saint-Philbert-de-Grandlieu, qui est une commune au sud de Nantes. Disons qu'il y a toute une partie des enfants qui nous sont confiés, à qui l'aide personnalisée qui va être proposée maintenant là, avec les nouvelles mesures d'Arcos va être complètement inutile parce que leurs problèmes, leurs difficultés sont beaucoup plus globales et beaucoup plus massives. Donc là, le projet, c'est de supprimer totalement les aides spécifiques qui existaient depuis 1990 et pour les remplacer par des aides ordinaires, on va dire, par les enseignants du tout venant qui ont de grandes qualités mais qui ne sont pas spécialisés, donc qui vont faire ce qu'ils vont pouvoir, mais qui ne sont pas en mesure d'aider ces enfants en profondeur. Donc on va arriver à une situation complètement explosive. Donc ces gamins-là dans les écoles, le danger, c'est qu'ils vont devenir ils vont être tellement en souffrance que la violence dans les écoles ne va faire qu'augmenter. C'est évident.
On va dire fermer les razades et ouvrir les prisons, quoi. Hein.
Non à l'école du fric, fermer les razades, c'est ouvrir les prisons. Les enseignants sont remontés, on en a vu, des manifs d'enseignants, des manifs de profs d'instituts depuis des années et des années. Je me souviens de ma première manif dans ma jeunesse, et j'étais très très jeune et on gueulait contre le ministre de l'époque, mais moi j'avais pas repéré son nom, alors j'hurlais, même je dis ah bah, et puis je laissais les autres dire le nom du ministre en question, et puis après je continuais. C'est quelque chose qui revient tout le temps, qui est une chose de permanent, et les réformes de l'enseignement et ci et ça, mais là c'est tout à fait autre chose. Là il y a vraiment un choix de société, un choix de civilisation qui est en train de se jouer sur cette énorme réforme de l'enseignement conduite par le sémillant Xavier Darkos. Les enseignants sont remontés à bloc comme des coucous et ils ont raison parce qu'il en va de notre sort collectif, même si c'est pas seulement d'ailleurs français ces histoires. Vous avez vu les manifs très remontés là aussi en Italie des enseignants et des étudiants. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de l'essentiel. Ou bien on veut une société, on vise une société égalitaire, ou bien on vise une société inégalitaire. Or, ces messieurs qui sont au pouvoir, et celui-là notamment, veut l'inégalité. Il ne peut pas dire le contraire, sinon il ferait une autre politique que celle-là. Et notamment en ce qui concerne ces élèves, ces enfants en difficulté, qui, on a tous connu ça, on se souvient dans nos écoles primaires, il y avait la classe de perf, moi ça s'appelait les attardés ou les retardés carrément, ça remonte à pas mal d'années, et c'était un peu le dépotoir de ceux qui n'y arrivent pas, qui ne comprennent pas, qui... Voilà. Et on essayait de les intégrer, on essayait de les réintégrer. Ça se faisait... C'était assez violent, ces époques-là. Mais il y avait ce souci. Et là, depuis quelques années, il y a ces fameux RASED, réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, qui sont menés par des enseignants qui se sont spécialisés à cette fin de réintégrer en prenant cas par cas ou presque avec des psychologues, avec une spécialisation basée sur leur expérience d'enseignant pour essayer de réintégrer ces élèves. Les résultats sont difficiles à mesurer. Il y a bien sûr des miracles, il y a des élèves qui se recueillent tout d'un coup, hop, comme un coup de baguette magique et qui sont réintégrés. Mais il y en a, on ne sait pas très bien. Ça donnera des résultats peut-être plus tard. Mais en tous les cas, c'est une démarche. Ou bien, encore une fois, on veut une société égalitaire, et ça c'est un vieux souci, ça parcourt l'histoire de l'humanité, que d'avoir l'égalité pour horizon, ou bien l'inégalité vue comme quelque chose de naturel, allant de soi avec des forts et des faibles, et on ne pourrait rien à ces déséquilibres-là. Évidemment, c'est le discours des dominants, c'est le discours des forts qui veulent garder leurs privilèges, qui veulent garder leur patrimoine, qui veulent garder leur poste, et on appelle ça des conservateurs. Ils ont à leur service, tout ce que la force du pouvoir, la force de l'argent permet d'avoir, c'est-à-dire des médias, par exemple, qui diffusent cette idéologie inégalitaire. Ça fait des années que ça dure dans nos sociétés. On s'y est habitué. Pas tous. Les enseignants, ceux-là, en tous les cas, ne s'y sont toujours pas habitués. Et certainement pas Sylvie, qui va nous dire pourquoi elle ne s'est jamais habituée à l'idée d'une société inégalitaire. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Et si on essayait l'ignorance ?
À l'école maternelle, on entend la sonnerie. Ah, que la vie est belle, à 4h30. 4h30 pile, boulevard Bertolucci. Les enfants sont agiles, les mamans sont jolies. C'est l'heure des friandises, les goûters sont sortis. On pardonne les bêtises à 4h30. Macho! 4h30 pile, boulevard Bertolucci. Tout paraît si facile, c'est un vrai paradis. Si le monde est en crise, je veux rester ici. Adieu les idées grises. Boulevard Bertolucci.
Samedi 25 octobre 2008 à 14h38. Sylvie de Nantes. Bonjour Charlotte. J'ai fermé tristement la porte du local RASED vendredi soir, et ce n'était pas comme les autres vendredis soirs. J'ai pensé, pas de vacances pour la résistance. Il faut que vivent les Razed, sinon c'est un petit morceau d'humanité qui disparaît. Lundi, j'appelle mon IEN pour tenter d'avoir un rendez-vous avec la question en tête. Que compte-t-elle faire pour nous aider à ne pas disparaître? J'ai informé les collègues de mon Razed du refus d'autorisation de l'IA pour le reportage. Je leur ai dit que j'attends un appel de vous lundi pour savoir comment on s'organise sans cette autorisation. Et moi, cette nuit, je pensais, est-ce que l'IA a vraiment le droit d'interdire qu'un service public d'information fasse son travail d'information sur un service public? Je vous transmets différents documents qui sont parus depuis l'annonce de la disparition des Razed et qui expliquent bien l'étendue des dégâts. Humainement, politiquement, psychologiquement, c'est plus que des postes qui sont supprimés. Comme dit le collègue, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde.
Bonjour. C'était facile à trouver ?
Ouais, très facile. Très bien.
Le petit feu de cheminée, c'est agréable.
Est-ce que vous voulez un café?
Je veux bien, mais...
Je vous sers.
Merci.
En fait, je suis originaire de Rezé. Je suis née au Corbusier, à Rezé.
Voilà, voilà, on est chez Sylvie, le matin. Charlotte vient d'arriver. Alors, il faudra faire attention parce que Sylvie, elle a une voix de très jeune fille. C'est plus une très jeune fille. Elle a dépassé un peu la quarantaine, mais vous avez vu, elle est très déterminée dans sa lutte. Elle n'est pas la seule en France. Beaucoup, beaucoup d'enseignants sont mobilisés autour de cette idée que cet enseignement-là a un sens, et un sens qui s'inscrit dans... C'est plus que le fruit de réformes diverses et variées. C'est vraiment de véritables choix de civilisation qui font qu'on on choisit ou bien on retranche de l'humanité ou bien on ne retranche personne de l'humanité. C'est vraiment deux choses bien différentes qui devraient d'ailleurs, c'est ça qui devrait faire une gauche et une droite, une vraie gauche et une vraie droite dans ce pays. Mais revenons à Sylvie qui nous accueille ce matin. Elle habite dans un petit patelin à 20 km de Nantes. C'est très beau, c'est au bord de la Loire. C'est une vallée maraîchère. On cultive des tas de trucs. Peut-être la mâche, et la mâche qu'on entend dans les réclames, là, c'est peut-être de là qu'elle vient. Elle a deux filles d'une vingtaine d'années, Adèle et Clémence, et puis un mari qui s'appelle Gilles. Et puis voilà, on va passer cette journée avec elle, avec Sylvie.
On l'appelait la maison du Fada. C'est un grand immeuble qui a été construit donc après la guerre. Ça, c'était des logements sociaux en fait. Donc, alors c'est un grand immeuble qu'on appelait la maison du Fada parce que c'était un peu irréaliste comme projet à l'époque, quoi. Hein. Et puis quand on était nous dans l'immeuble, les enfants qui habitaient dans des maisons disaient qu'on allait devenir fou parce qu'on était en hauteur. Voilà. Donc c'était des logements d'après-guerre, donc ça pouvait être que mieux pour les gens qui sortaient de logements insalubres, quoi, comme mes parents par exemple. Donc quand mes parents, moi j'étais pas née, mais quand mes parents après la guerre sont arrivés au Corbusier, c'était pour eux c'était merveilleux, il y avait l'eau chaude, il y avait ça a l'air de rien, hein, mais c'était vrai. Et puis il y avait toute une vie communautaire surtout qu'on a su retrouver au Corbusier. Moi je suis née là-bas, c'était un village en hauteur, voilà. Ouais, moi j'en ai un souvenir extraordinaire. Alors après il y avait l'école en haut, l'école du Corbusier ça s'appelait, et en fait elle était sur le toit, voilà. Et c'est pour ça qu'on disait que les enfants qui allaient devenir fous. Elle existe toujours cette école, hein. Elle a du mal à vivre, je crois qu'elle ferme des classes régulièrement, mais elle existe toujours, ouais. Mon père était ouvrier, alors en fait son vrai métier c'était électricien. Il a travaillé au chantier de Bretagne et puis après il a travaillé pour une société d'ascenseurs. Mais son vrai métier c'était donc ouvrier électricien. Et maman était mère au foyer parce qu'on était sept quand même. Ah, la vraie famille des années 50 quoi. C'était pas rare à l'époque. Hein. Et donc moi je suis la septième de cette famille. Donc c'est pareil pour moi, devenir institutrice, c'était, alors là pour le coup c'était vraiment l'ascenseur social, hein. C'était vraiment, moi je suis vraiment de cette génération où être instit c'était l'ascenseur social, c'était une réussite sociale. Je dis pas que mes frères et sœurs n'ont pas réussi, mais mais ils sont restés dans le milieu ouvrier.
La vache qui nage sur le dos. Le kangourou qui lave la plante. Le singe et l'éléphant qui nage. Le lion qui a un pantalon. La vache et le singe qui se cachent derrière la plante.
Voilà. Le souci et le travail et la matière humaine sur laquelle travaille Sylvie, qui vient nous dire un petit peu d'où elle vient. Oui, cette fameuse maison du Fada, il y en a une aussi, comme vous savez, à Marseille, un village tout en hauteur, et une famille ouvrière. Il y a des liens, évidemment, entre cette jeunesse, cette enfance, et puis ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est-à-dire spécialisée dans ce réseau d'aide spécialisé aux élèves en difficulté qui, je vous le rappelle, ils n'ont pas manqué de nous le rappeler assez souvent quand même, hein, ils sont très très mobilisés, tous ces enseignants sont menacés, et ça explique, c'est l'une des motivations des manifs de demain, de la mobilisation demain des enseignants.
Moi je sais que, pour l'avoir vécu, que l'école, quand on est dans un milieu un peu fragile, ça peut vous fragiliser plus, oui. Et puis, autrement, ça peut être aussi une merveilleuse chance d'ouverture aux autres. Mais, alors là, du coup, c'est la part de l'enseignant, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant, qui est d'abord un enfant, quand même, avant d'être un élève? Qu'est-ce qu'il va faire de cet enfant? Et on oublie souvent ça, parce que dans l'enseignement, on pense souvent au programme, à la réussite, aux évaluations, et on oublie l'enfant qu'il y a derrière l'élève. Et ça a été, c'est tout mon programme d'enseignant spécialisé, en fait. Alors, ça ne remet pas en question la pédagogie des enseignants ordinaires, parce que quand on a une classe de 30, on s'occupe des élèves, et surtout, on est très attentif à ce que tout le monde réussisse. Sauf qu'il y a plein de choses qui nous échappent. Peut-être justement des petites humiliations quotidiennes, qui n'auront pas été perçus. Pour l'adulte, c'est rien, mais pour l'enfant, c'est énorme. Et puis, l'enfant, c'est aussi celui qui arrive de chez lui, avec tous ses problèmes, toute sa problématique familiale. Et c'est vrai que, de fait, quand on est enseignant spécialisé, on touche beaucoup à la difficulté sociale. On rencontre des enfants qui sont aussi en difficulté sociale. Il faut vraiment avoir ça en tête quand on aide un enfant. Tout le monde, dans son milieu familial, n'a pas forcément de livres, d'accès à la culture. C'est pas une évidence, l'école. Il faut savoir que c'est pas une évidence pour tout le monde.
8h15.
Je crois que c'est l'heure de partir à l'école.
N'obéit pas, ne respecte pas les autres, ne respecte pas les règles, semble insensible aux remontrances, difficulté de concentration, manque de persévérance.
Alors, c'est un enfant difficile à gérer dans le groupe classe. N'obéit pas, provoque les enfants avec violence, ne respecte pas les autres, ni ce qu'on lui demande. Dangereux pour lui et pour les autres. Lancer de couteau à la cantine. Rien n'a l'air de l'affecter. Douceur, fermeté, intérêt. Très violent aussi en récréation.
Difficulté principale, manque de conscience, adaptation à la nouvelle classe très difficile. Parle quelquefois comme un bébé. Les nombres entre 5 et 10 ne sont pas encore connus. Relation aux autres, il ne joue pas avec les autres enfants de la classe. Réaction de la famille est consciente des difficultés.
Alors, problème de comportement et de respect des règles de vie. Élève fréquemment en opposition. Langage oral, aucun problème. Relation aux autres, souvent dans le conflit. Attitude face au travail, de grandes capacités. Certains manquent d'autonomie dû à la recherche systématique de la présence de l'adulte à ses côtés. Réaction de l'enfant, semble plutôt conscient de son comportement.
Devant la crise,
C'est vrai que ça m'a énervée déjà avant de partir. Alors là, bah, une journée comme celle-ci, elle est assez révélatrice parce que le matin avoir 3 séances d'aide à des niveaux très différents. Et l'après-midi, je vais avoir aussi 3 séances d'aide avec des niveaux très différents. Donc c'est un emploi du temps très varié et qui touche à tous les niveaux de difficultés scolaires. On arrive, on est vraiment dans le village. Et on arrive dans l'école. Par le climat. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et il y a déjà des enfants qui sont en séance de soutien. Le soutien donc est organisé par les enseignants le matin avant la classe, le midi entre sur le temps du repas ou le soir après la classe. Voilà. C'est la salle du réseau d'aide où je travaille avec les enfants. Ici, sur ces petites tables, les enfants de maternelle vont s'installer.
Et ils sont à peu près combien par groupe ?
2, 3, 4, 5.
Alors, la disparition des RASEDE qui est prévue par le gouvernement, ça vient à l'intérieur de la suppression de, je ne sais plus combien, 11 000 postes dans l'enseignement. Là, ce sera sur 3 ans. Que ces postes-là seront supprimés et remplacés par, dit le gouvernement, dit le ministre, par des heures supplémentaires de soutien en semaine qui seront faites par les profs normaux, enfin, qui ont déjà toute la charge des journées d'enseignement. Et puis, il y aura des stages pendant les vacances. Voilà, mais cette spécialisation, ce travail très très attentif auprès de chaque, ou par petits groupes, de chaque élève, chaque enfant, ça c'est en voie de suppression, ce qui explique cette véritable révolte des enseignants concernés.
Vous êtes enseignante en CP ?
Oui. Donc une classe qui est très importante, comme toutes les autres classes bien sûr, mais où justement certains enfants arrivent parfois, comme c'est, on a cette année beaucoup d'enfants dans ce cas-là, des enfants qui arrivent avec un grand manque de maturité et qui ont du mal à rentrer dans les apprentissages. Hein, y a un problème de maturité, mais parfois c'est beaucoup plus profond. Et donc ben, il faut creuser pour savoir pourquoi cet enfant bloque sur les apprentissages, pourquoi il n'y arrive pas.
Et du coup, qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants l'année prochaine ?
Eh ben, on va faire, évidemment, nous, enseignants, on a une conscience professionnelle, on ne va pas les laisser tomber. Mais bon, à quelle échelle on va pouvoir les aider, je ne sais pas. Donc voilà.
Bonjour. Vous êtes enseignante en quelle classe ?
En CM. Si je puis me permettre d'émettre mon sentiment profond, on ne va vraiment pas dans le bon sens. Hein. C'est très grave. C'est très grave. Qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on privilégie dans cette société ? Ce sont des questions de fond qu'il faut se poser, quoi. On est dans une société très élitiste, et c'est que le meilleur gagne, et aussi les gens qui ont des moyens sociaux qui sont plus favorisés vont pouvoir s'en sortir, parce qu'on aura toujours la possibilité à l'extérieur de recourir à des personnes spécialisées ou autres pour pouvoir être aidées. Mais les personnes les plus défavorisées, bien c'est toujours pareil, on creuse les écarts, elles seront encore plus défavorisées. Donc c'est une société très inégalitaire que nous sommes en train de, non pas de créer, parce que je pense que, comment dire, tout le monde n'a pas les mêmes droits au départ, mais par contre on creuse les inégalités sociales, et ça je trouve ça très grave, voilà ce que je pense. Donc là je suis désolée, il y a des réalités, ça vient de sonner, je dois regagner ma classe.
Voilà, ça c'était un moment important. Une salle des maîtres, ça vibre. Juste avant le temps classe. Donc ça sonnait. Tous les enseignants ont rejoint leur classe. Je vais aussi aller chercher mes élèves de CE2. Donc à tout à l'heure.
là. J'ai pris le plus grand chiffre, 400, et j'ai fait une soustraction, moins 204. 10 moins 1, ça fait 9, et 4 moins 3, ça fait 1. Ça fait 196. Au revoir.
Ça, c'était des élèves de CE2 ?
CE2, voilà, qui avaient été signalés par leurs enseignants pour des difficultés mathématiques. Et parfois, quand c'est présenté comme un jeu, on oublie que c'est l'école et qu'il faut bien réussir et on a le droit de se tromper. On peut se tromper, on peut recommencer, se tromper encore et réussir. Et c'est le temps qui est pris avec elles pour faire l'expérience de leur réussite.
Alors là, vous devez aller où ?
Alors, je vais chercher mes 4 élèves de moyenne section en maternelle.
Donc là, il est presque 10 heures.
C'est l'heure. Donc, ce sont des élèves qui ont été signalés pour des difficultés de langage. Alors, c'est une action de prévention. Et donc, en partenariat avec les enseignants des classes maternelles, moyenne section, nous avons mis en place ces séances d'aide au langage. Alors, ce sont des enfants qui ont été repérés par leurs enseignants comme des petits parleurs en classe. Parce que, encore une fois, le grand groupe, ça n'aide pas à s'exprimer aussi facilement que ça.
Allez, c'est parti.
Difficulté principale, instabilité, inattention, désordonné, a besoin d'être guidé, soutenu, immature, dépendant de l'adulte. Ses capacités d'apprentissage semblent limitées. Langage oral pauvre, peu structuré et une articulation défectueuse.
Éléments familiaux particuliers. Beau-père incarcéré pour 6 mois. Alors, difficulté principale, prérequis de maternelle grande section non acquis. Langage oral bien. Activité logico-mathématique, ne connaît pas les nombres au-delà de 10. Réaction de la famille, réaction de l'enfant. Maman très jeune, elle-même en difficulté, demande une aide psy. Autre précision, maman seule, beaucoup d'enfants. 6 au dire de la maman, 4 sur fiche renseignement. Beau-père incarcéré qui aidait beaucoup pour les devoirs.
Voilà quelques cas d'enfants dont les enseignants des RAZ ont la charge et souhaitent continuer d'avoir la charge. Il s'agit là, ces RAZ, d'une spécificité du service public et c'est quelque chose qui est gratuit. Il s'agit de professionnels spécialisés d'éducation nationale qui travaillent ensemble pour apporter une réponse individualisée à ces enfants, ces élèves en difficulté. Dans chaque école, pour être très clair, interviennent un enseignement qui apporte une aide à dominante pédagogique, on l'appelle le maître E, un enseignant qui apporte une aide à dominante rééducative, c'est le maître G, et un ou une psychologue de l'éducation nationale. C'est le boulot commun de ces 3 fonctions qui permet une analyse approfondie des difficultés de l'enfant-élève dans ses dimensions psychologiques, affectives, relationnelles et cognitives. Et on voit bien que dans cette... comparé à cela, on ne peut pas remplacer ce traitement de la difficulté à des soutiens scolaires qui n'ont rien à voir avec ces réseaux d'aide. Ce que disait tout à l'heure cette enseignante, c'est que évidemment il y a un travail, un simple travail pour limiter la violence. On dit toujours, il faut faire de la prévention, il faut agir en amont, etc. pour éviter ces violences de masse ou ces émeutes, etc. Ben voilà, il ne faudra pas s'étonner si on supprime, en supprimant ces services, on voit à terme la violence se développer. Mais évidemment, on ne fera pas le lien. On ne fera pas le lien, quoique cette histoire intéresse pas seulement les enseignants, ça intéresse aussi en premier chef les enfants, les élèves, et puis aussi quand même les parents.
Vous êtes parent d'un enfant qui a quel âge ?
J'ai deux enfants, moi, 7 et 5 ans, l'un qui est au primaire et l'autre en maternelle. Voilà, qui est dans une classe de quoi, une trentaine d'élèves, pas loin. Voilà, on a participé déjà en début d'année à lutter contre une fermeture de classe, comme tous les ans d'ailleurs, depuis quelques temps. Et puis maintenant, on apprend qu'on nous supprime les réseaux d'aide, la petite section, enfin bref, c'est un démantèlement pur et simple de l'éducation nationale en vue de privatisation complète de l'éducation. Voilà. C'est tous les ans un nouveau truc qui arrive.
Voilà. Vous avez des enfants qui bénéficient du réseau d'aide ?
Non, ils n'ont pas bénéficié du réseau d'aide, bien qu'il y en ait quand même beaucoup aussi dans l'école qui est accès à ce service, qui est gratuit, qui aide quand même beaucoup d'élèves et leurs familles aussi. Donc c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. En plus, on est dans une région où il y a quand même beaucoup de... une sorte de compétition entre le privé et le public.
Oui.
Il faut bien rappeler. Donc là, ça va être encore pire, quoi. Hein. Ceux qui auront les moyens iront dans les écoles UP, auront accès à un psychologue, etc., du soutien scolaire. Et puis les autres, ils resteront sur le bas-côté. Voilà, tout simplement.
Il y a une forte compétition dans la région entre le public et le privé ?
Oui, c'est assez fort. Oui, c'est assez fort. Ouais, il y a presque moitié-moitié... grosso modo, hein, entre le privé et le public. Il y a même des villages où il n'y a même pas du tout d'école publique. Tellement il y en a peu. Donc, non, c'est un démantèlement. C'est littéralement ça, quoi. On détruit tout. Même si on peut rajouter aussi tout ce qui est médecins scolaires, infirmières, qu'il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. On casse tout, quoi. On casse tout. Voilà.
Vous faites quoi dans la vie, je peux vous demander ?
Oui, moi je suis responsable informatique. Je suis pas. Ma femme est enseignante. Alors, ceci peut dire aussi dire cela, mais on constate bien que d'année en année, c'est de pire en pire. D'année en année, c'est de pire en pire.
Elle enseigne à quel niveau ?
En maternelle. En maternelle également. Donc elle connaît bien le sujet. Donc j'en entends parler souvent.
Merci, hein, à bientôt.
Bon courage.
Merci. Au revoir.
Les cheveux de ma sœur, capturés par ma main. Voir les peaux qu'elle m'embête. Là, faut qu'on se console. Son sourire sous ses larmes. J'y dirai que je l'aime demain. En attendant, frangine, nos joies creusent des rigoles. Les Dibala, bonbons piqués à ma maman, à la bourse de l'amour, font une fortune d'un rien. Son cahier à chansons, chanté de temps en temps, quand je m'en foutais bien, j'avais tout, il est mien. Les soirs de réveillon, on osait s'embrasser, m'en fous du comment. Père Noël, faut voir ce qu'on était beau. Et les dimanches d'ennui, mon père me faisait des jouets. Ouais. Comme on dit par chez nous, j'ai du sang, j'ai d'un guillot. C'est du sang, c'est pas de l'eau. Je cours, dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours. Plus tard, des amitiés qui s'oublient doucement m'ont bousculé la tête. On s'est encanaillé, on fumait en cachette. T'as vu le voyou, le grand ? On trichait à l'école, même pendant les dictées. On a dragué les filles, on en a eu quelques-unes qui m'ont appris des trucs. J'aurais jamais cru ça. J'ai su qu'un petit derrière, ça pouvait être une dune. Que si tu mélanges des lèvres, ben t'as le cœur qui bat. On s'est construit le monde avec nos regards neufs. Le lendemain, un autre venait le remplacer. On avait tout compris, de la poule ou de l'œuf. Mes frères de petits grands, vous m'avez dessiné. Et je cours, dans l'autre sens que la terre. Je cours et me fatigue, je ne rattrape rien. Et le temps ne me laisse que souvenirs et regrets. Mais je cours, et vivement demain.
la pause du midi.
Oui.
Ouais.
On mange un peu.
Ouais.
Bon, j'espère que mon veilleur de feu
l'aura maintenu en vie.
Oui.
Route touristique du vignoble nantais. C'est la grande région des vins de Loire.
Ouais, exactement. Vignoble nantais. Bah, ici, c'est le muscadet.
Et un enseignant normal, c'est rémunéré combien ?
Ça dépend de son barème, ça dépend de son ancienneté, ça dépend de plein de choses. Moi, je gagne 2300 euros, donc prime du rasette comprise. La prime de 60 euros, c'est quand même quelque chose. Hein. Ça, c'est quand même assez cynique. Hein. C'est ce qui est mis en avant, quoi, hein, que les enseignants spécialisés, remis sur des classes, garderont quand même leur prime. S'ils acceptent de prendre des postes fléchés, ce qu'ils appellent les postes fléchés, c'est-à-dire des postes que eux auront peut-être choisis ou qui resteront dans l'enseignement spécialisé. Mais c'est quand même assez... Donc vous pourrez aussi comprendre à travers ça qu'on fait ce travail pour la prime. Hein. C'est aussi ça, quoi. C'est tellement... Voilà, c'est tellement ridicule que ça se retourne contre eux, tout ce qu'ils racontent. Hein. Parce que là, franchement...
C'est peu te dire qu'il y a... une adversité contre le ministre de l'Éducation nationale et contre sa politique, et qui est donc celle du gouvernement. Donc on est avec Sylvie, je vous le rappelle, cette auditrice qui avait envoyé un message pour qu'on vienne, qu'on se penche sur ce sujet. C'est vrai, effectivement un sujet passionnant. Et là, on rentre avec elle à la maison pour le déjeuner.
Ça sent bon ce que vous avez préparé.
Là, j'ai préparé un petit bœuf bourguignon pour ce soir. Comme je suis de RTT, j'en profite pour faire la cuisine. Voilà.
Vous faites quoi sinon dans la vie ?
Je suis contrôleur principal des GFIP, c'est-à-dire Direction Générale des Finances Publiques, au CHU de Nantes. En fait, je gère le budget, la partie dépenses de l'hôpital. Voilà. Vaste programme.
Non.
Oui, j'œuvre aussi pour le service public, bien sûr. Et ça n'a rien à voir avec l'enseignement, quand même.
Mais vous subissez des coupes de budget.
Oui, depuis plusieurs années, déjà. On peut s'interroger sur le bien fondé de ces coupes sombres au niveau du personnel. Ce qui est troublant, c'est qu'avec l'élection de Barack Obama, on s'aperçoit que dans ses mesures phares, il veut rétablir l'école publique pour tous, ainsi qu'une couverture sociale. Et c'est un peu paradoxal ici, en France, où on attaque effectivement de plus en plus ces acquis sociaux. Et on peut s'interroger, effectivement. D'autant plus que la crise financière qui est intervenue va pas réduire le déficit public. Si les coupes sombres dans le personnel qui touche service public, c'était pour réduire vraiment le déficit public pour les générations futures, d'accord, pourquoi pas. Mais quand on s'aperçoit des milliards d'euros qui sont injectés pour soutenir les banques face à la crise financière, quid du déficit public. Et donc, voilà. C'est vrai qu'on a le sentiment quand même que parler, effectivement, c'est bien de pouvoir s'exprimer. Mais en tant que citoyen, quel pouvoir on a d'agir, en fait, sur les décisions qui sont prises. On n'a pas beaucoup d'emprise, sinon que de parler, peut-être. Mais
il nous reste ça quand même.
Mais
il nous reste ça quand même.
Oui, il nous reste
parce
ça.
Parce que faire des manifestations, les grèves, il n'y a pas un jour où il n'y a pas une mauvaise nouvelle. Et qu'est-ce qu'on peut faire là? Les grèves sont remises en question. Hein, le droit de grève même est remis en question. La façon dont on doit s'inscrire, ne pas oublier de s'inscrire à une grève. Et puis le service d'accueil aussi, qui est quand même une belle casse. une belle casse quand même du système de grève, hein, quand même, parce que il ne faut pas qu'on s'aperçoive qu'on soit en grève. Donc il y a un service d'accueil. C'est incroyable, ça, justement, une grève, c'est fort symboliquement. Ça veut dire stop, on arrête le travail et on se dit ça peut plus continuer. Il faut regarder les choses autrement. Mais si personne s'en aperçoit, comme c'est organisé, on va encore faire grève, on va encore perdre une journée de salaire et puis on sera encore déçu et on sera encore amer et on sera encore un peu plus on serait un peu plus désespéré, voilà. Oui, c'est vrai, comment se faire entendre? Il faudrait trouver d'autres moyens, mais comme tu dis, il y a encore la parole. Oui. On peut encore parler. Mais
la parole n'est plus sans risque.
Ah bah, c'est clair, hein, mais c'est quand même une forme de résistance, si on peut parler. Je sens vraiment que par l'intermédiaire de cette parole, il y a presque une lutte collective quand même, quelque chose qui s'organise.
Merci à tous. Merci à tous pour signer la pétition contre la suppression des RAZED. C'est www.sauvonslesRAZED, toutattaché.org. C'était un reportage de Charlotte Perry. Merci à Sylvie et à tous les enseignants, parents d'élèves et enfants que nous avons rencontrés. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission La Basse J'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et vous pouvez faire des commentaires si vous le souhaitez. Je pense qu'on va en avoir pas mal avec les profs qui se mobilisent pour demain. Vous pouvez également réécouter cette émission sur labas.org, la-bas.org. Et là aussi, on attend avec impatience vos messages et vos réactions. Et puis un scandale qu'il faut absolument dénoncer, c'est le procès fait à l'homme politique le plus populaire de France. Ce sera au théâtre de Jazeille. Il y aura deux audiences, le mardi 25 novembre et le lundi 1er décembre à 20h. Donc, théâtre de Jazeille, 41 boulevard du Temple à Paris, dans le 3e arrondissement. Le métro, c'est le métro République. Et pour réserver vos places, que je vous conseille, appelez le 01 48 87 52 55. Je répète, 01 48 87 52 55. Alors, il y a un tas de gens qui vont participer à cette véritable mascarade honteuse. Des personnages comme Jacques Vergès, Didier Porte, tout un tas de journalistes de sacs et de cordes et d'un peu partout. Mais on espère que notre ministre si populaire sera défendu. Il y aura réduction pour tous ceux d'ailleurs qui viendront avec un grain de riz à la main. Et puis je vous rappelle le grand événement, l'autre, la semaine prochaine. C'est le 26, le mercredi 26, c'est la sortie nationale de Chomsky et compagnie dans une centaine de salles en France. On va en reparler. À la technique aujourd'hui, Philippe Duclos et Sandrine Laurent. C'est Koye Nguyen et Raphaël Mouterde qui ont réalisé cette émission modeste et géniale. C'était un reportage, je l'ai déjà dit, de Charlotte Perry. Quant à Agnès Lebot, elle attend vos messages au répondeur de la Basse J'y suis, c'est-à-dire au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.